France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Nous sommes en Afrique, à Dakar, en 1959. Jean Rouch est interviewé par un journaliste de la SORAFOM, Société de radiodiffusion de la France d'outre-mer, société créée au milieu des années 50 par Pierre Schaeffer. Transcrire les traditions orales. Et doivent-elles être rédigées, écrites, ces traditions? Place plutôt aux enregistrements, afin d'archiver la mémoire, une mémoire de l'Afrique, l'histoire encore vivante, sortant de l'esprit et de la bouche de l'homme. Le magnétophone, il faudrait, à un moment donné, deux magnétophones, celui qui diffuse la parole d'un Africain et un deuxième pour enregistrer les commentaires. Radio Dakar, janvier 1959, recueillir les archives sonores de l'Afrique, un travail long et délicat.
Monsieur Rouch, vous étiez venu en Afrique il y a quelques mois, je crois, pour faire une étude sur les migrations de certaines populations. Je crois que c'est en Côte d'Ivoire, en Haute-Côte d'Ivoire et en Ghana que vous étiez venu.
C'est ça, j'étais au Ghana et en Côte d'Ivoire jusqu'au mois de mai de cette année.
Oui, et alors aujourd'hui, quelle est la raison qui vous ramène en Afrique? Quel est le but de votre mission?
Eh bien, exactement, je suis passé par Dakar en retournant sur Abidjan et sur Accra pour continuer les enquêtes commencées l'année dernière, en particulier pour collaborer à un travail de recensement systématique des populations du Nord qui descendent vers la côte. Pendant un an, aussi bien au Ghana qu'en Côte d'Ivoire, nous allons faire un recensement des migrants venant du Niger, de la Haute-Volta et du Soudan, de ces migrants qui viennent travailler dans les régions côtières et qui forment un appoint considérable pour ces zones, puisque aussi bien en Côte d'Ivoire, en basse Côte d'Ivoire qu'en basse côte de Ghana, on peut considérer que plus de 50% de la main-d'œuvre et tributaires du Niger, du Soudan et de la Haute-Volta.
La Haute-Volta, oui. Mais le Musée de l'Homme n'a-t-il pas l'intention de mettre à jour une histoire de l'Afrique?
Là, vous me prenez sur un sujet qui m'est cher. Effectivement, nous voudrions essayer de créer de véritables archives sonores africaines. L'idée est la suivante, les historiens que nous sommes amenés à être quelquefois lorsque nous faisons de l'ethnographie s'aperçoivent qu'il n'y a rien de plus difficile que de traduire les traditions orales, de les transcrire par écrit. Ces traditions sont orales et elles devraient rester orales. Et nous pensons qu'actuellement, la technique électronique actuelle, devrait justement permettre de constituer des archives historiques sonore de l'Afrique.
Oui, en somme, vous semblez vouloir apporter un démenti au vieil adage qui dit « voilà comment on écrit l'histoire ». Vous voudriez « comment on dit l'histoire ».
Comment on dit l'histoire et comment on la raconte. Car cette tradition orale, effectivement, est une tradition qui est soumise à beaucoup de fluctuations.
Oui.
Le mythe, la légende, se sont emparés des faits historiques, les transforment. Mais si cette histoire africaine existe sous cette forme, je ne vois pas de quel droit nous avons de l'amputer de ce merveilleux qui fait une de ses parties. Effectivement, on peut, à partir de cette histoire, tout enrobée de légendes et d'histoires fantastiques, reconstituer des faits historiques exacts. Depuis longtemps, des historiens l'ont fait, des hommes comme Delafosse, Toxier et Monteil, pour ne citer que ces trois ténors du début du siècle. Seulement, en partant des travaux de base de ces excellents historiens, en se basant sur les rares traditions écrites que nous possédons, les manuscrits arabes écrits vers le 15e et 16e siècle et que l'on a retrouvés à Tombouctou, en partant des listes généalogiques qui ont été établies au début du siècle par des administrateurs, on peut essayer aujourd'hui d'aller plus loin. D'aller plus loin en enregistrant sur des magnétophones, cette histoire telle qu'elle est encore vivante dans l'esprit et, j'allais dire, dans la bouche des hommes. Si vous voulez, on est à, vous le savez aussi bien que moi, on est actuellement à un moment de passage de l'Afrique. Un moment où certaines traditions basculent, certaines autres, au contraire, deviennent de plus en plus vivantes. Et pour beaucoup d'Africains, je parle de l'Afrique occidentale et de l'Afrique de la savane, l'histoire est vraiment une chose essentielle, une chose vivante. Un homme est dans son temps présent parce qu'il a derrière lui des générations du passé. Il ne peut agir que conformément à ses générations passées. Évidemment, l'école, évidemment, l'éducation européenne ont tendance à effacer ces choses. Mais il n'est pas trop tard.
Oui, mais il est un fait qu'il faut faire vite tout de même parce que les vieux Africains se font de plus en plus rares, les vieux Africains qui ont connu cette histoire de l'Afrique.
Oui, c'est-à-dire que les vieux Africains qui transmettaient cette tradition à leurs enfants, actuellement, souvent ne peuvent plus le faire. Leurs enfants sont absents, ils sont allés à l'école et ils n'ont pas l'occasion de le faire. Il faut rester longtemps avec son fils, lui raconter cela lorsque on vit dans une période qui n'est pas la période mécanique, qui n'est pas la période urbaine, où l'on parle le soir autour d'un feu qui s'éteint avant que se lève la tornade, ou à midi, après le repas, quand tout le village est calme. C'est à ce moment-là qu'on raconte l'histoire. C'est une histoire que j'ai eu l'occasion d'écouter, par exemple chez les Djerma et chez les Sonrai, et qui est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Quand je relis mes notes, ensuite, elles sont d'une pauvreté et d'une sécheresse, elle absolument incommensurable. Et c'est pour cela que j'ai essayé, et certains de mes camarades du Musée de l'Homme ont essayé de le faire, et j'ai appris avec plaisir que vous aviez ici, à Radio Dakar, certains de vos collaborateurs qui avaient également tenté quelque chose dans ce sens. Eh bien, j'ai essayé d'enregistrer ces phrases, d'enregistrer ces récits anciens. Vous avez là deux sortes de sources. Vous avez évidemment le griot. Mmh. Le griot, c'est le personnage qui, en principe, est le conservateur de la tradition. Seulement, je me suis aperçu assez rapidement que le griot est un homme qui d'abord parle une langue souvent hermétique. Il est donc nécessaire de lui demander de la traduire, et quelquefois, son père ou son grand-père, en transmettant cette tradition, lui a transmis les paroles et ne lui a pas transmis la signification de ces paroles. Et d'autre part, le griot use volontiers certaines images stéréotypées, qui sont des belles images, mais qui ne correspondent pas à grand-chose. Je vais vous en donner un exemple. Faisant une enquête récemment dans le nord de la Côte d'Ivoire et le nord de Ghana sur des conquêtes nigériennes du siècle dernier et sur les guerres de Samori, deux griots, l'un malinqué, l'autre nigérien, attribuèrent la défaite de Babatou, le conquérant Djerma, et de Samori, au fait suivant, qui était le même dans les deux traditions. Arrivés au sommet de leur gloire, ils avaient voulu connaître la position d'un enfant dans le ventre de sa mère. Ils avaient fait l'un et l'autre ouvrir le ventre d'une femme captive, et les marabouts autour d'eux leur avaient dit « Aujourd'hui, vous avez dépassé la mesure, vous allez être vaincu. » Eh bien, cette histoire, si vous voulez, qui est très belle, en fait, moi je l'appelle une image stéréotypée de griot. Je suis sûr que dans beaucoup de traditions africaines, on la retrouvera peut-être pour El Hadj Omar, peut-être pour Lascar Mohamed, peut-être pour ses grands chefs prestigieux. Donc, l'art du griot, c'est cela. Il faut donc le prendre, il faut conserver ces images, mm-hmm. qui sont très belles, mais il faut le considérer un peu comme le stéréotype. La deuxième source qui est intéressante, c'est la tradition des vieux, dont nous parlions tout à l'heure. Tradition de gens qui ont reçu de leur père le récit d'une bataille ancienne qui se transmettait avec énormément de détails, et ce qui est évidemment intéressant de l'histoire relativement récente. Par exemple, à Kong, dans le nord de la Côte d'Ivoire, faisant une enquête sur les problèmes des migrations des Dioula vers le sud de la Côte d'Ivoire, donc si vous voulez le substrat historique de ce que j'étudie actuellement sur le terrain, avec un de mes camarades d'Abidjan, nous avons trouvé qu'il y avait encore à Kong un vieil homme âgé de peut-être de 120 ans qui avait été témoin de l'arrivée de Bingé. Et cet homme, qui était évidemment assez vieux, accompagné de son galopin de fils qui avait 100 ans, sont venus, nous sommes allés les trouver chez eux, on a commencé à parler et j'ai mis tout d'un coup mon petit magnétophone Nagra en marche. Et quand ils ont entendu leur voix, immédiatement, leurs descendants, leurs fils, petits-fils, arrière-petits-fils, ont dit « Il faut enregistrer notre grand-père, il faut enregistrer cela, parce que sa parole va rester. Et comme cela, nous aurons, nous, notre histoire. » J'ai enregistré un simple récit sur l'arrivée de Bingé. Ce récit était évidemment en langue mandingue, et je l'ai fait traduire immédiatement en français. Si vous voulez, c'est un tout petit maillon de cette archive sonore historique dont nous parlions tout à l'heure.
Oui, mais justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que grâce au magnétophone portatif, on peut arriver à découvrir cette histoire. Et nous avons fait la chose suivante à Radio Dakar. Un de nos camarades, Diop Alassane, procède de la manière suivante pour reconstituer l'histoire du Sénégal, puisqu'il s'est intéressé particulièrement au Sénégal. Il se rend dans un village où il sait qu'il trouvera un vieillard qui lui apportera un fait historique. Il enregistre ce fait de la bouche du vieil Africain, et cet enregistrement passe ensuite sur les ondes. Et cela provoque des réponses. Les auditeurs africains, qui sont plus nombreux que vous ne le pensez, écoutent ce fait historique à la radio et le commentent. Et alors, certains apportent des démentis à ce que vient de dire ce vieillard, et ils écrivent à la radio en disant « Le vieux a dit ça, mais c'est faux, ça n'est pas tout à fait exact. Si vous voulez, venez nous voir, on vous apportera des précisions à ce sujet. » Et par recoupement, Diop Alassane arrive à reconstituer des faits historiques exacts. Le résultat est intéressant et nous arrivons, comme je vous le dis, à reconstituer avec beaucoup plus de précision ces faits historiques qui concernent le Sénégal.
Bien ça, vous voyez, c'est ce que vous me dites, une expérience absolument passionnante. On ne peut la faire actuellement dans toute l'Afrique.
Non,
mais
non,
on peut l'amorcer.
On peut l'amorcer.
Et le magnétophone, quand on fait l'écoute au magnétophone devant les gens du village, eh bien, déjà, il y a un peu de ce dialogue dont vous parliez. Des gens qui relèvent des erreurs qu'a dit le vieux.
Oui, c'est cela.
Et on arrive ainsi à une
par recoupement.
Et puis, il y a une espèce de cœur. Je ne peux pas appeler ça autrement. Il faudrait avoir deux magnétophones. Mm-hmm. Et en entendant le premier, je me souviens que ce vieillard, entendant sa voix, disait, répétait, « Oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça. » Et puis, il y en avait un autre qui disait à côté, pas tout à fait, et qui faisait les corrections. Il aurait fallu enregistrer cette espèce de cœur. Et c'est cela, si vous voulez, la tradition orale africaine, enfin, celle que je connais, celle des populations des savanes, où, justement, cette tradition est vivante. Ce n'est pas le récit du griot qui, s'accompagnait en tambour, défile ses litanies généalogiques. C'est vraiment une espèce de cœur dans lequel tout le village participe, dans lequel il y a des gens, les enfants qui demandent des questions. Qu'est-ce qui est arrivé? Et le pauvre vieillard, quelquefois, dit, bien là, je n'en sais rien, au moment où tout le monde est impatient. Eh bien, cela, si vous voulez, vous ne pouvez pas le transmettre par écrit.
Non, par écrit, non, parce qu'on brode un peu là-dessus, dans le fond, La vérité, ce n'est que ce qu'on raconte, le reste est un peu déformé. Les écrits sont toujours déformés, d'ailleurs.
Alors, évidemment, c'est un travail très délicat, c'est un travail très long, parce qu'il s'agit, si vous voulez, de faire, déjà, de recueillir des documents valables. Ça, si vous voulez, c'est un peu la part des ethnographes et des historiens. Il s'agit ensuite de recueillir des documents qui soient techniquement valables. Et là, nous rentrons un peu dans votre domaine. Vous savez, comme moi, que les appareils portatifs sont sujets à des pannes, sont quelquefois mal utilisés.
Oui.
Il n'y a rien de plus maladroit qu'un ethnologue.
Remarquez.
Il n'y a rien de plus fragile qu'un magnétophone.
Il faudrait évidemment des techniciens qui puissent accompagner les missions d'ethnologues qui viennent de la métropole pour justement reconstituer l'histoire de l'Afrique dans les différents territoires.
C'est cela, et ça ne serait peut-être pas très difficile, puisqu'il suffirait que ces techniciens viennent, par exemple, en fin de mission, quand les gens connaissant la tradition auraient pu être rassemblés, pas simplement 8 jours, 10 jours, au milieu d'une équipe qui a déjà séjourné 6 mois ou 7 mois sur le terrain, et que toute cette documentation soit centralisée, soit évidemment traduite immédiatement sur place, car là encore, je me suis aperçu souvent que si on attendait pour traduire, car on est paresseux sur le terrain, si on attendait d'être arrivé à une base, eh bien, les interprètes les plus fidèles étaient incapables de traduire certaines phrases, ou étaient incapables de mettre une identité sur un personnage qu'on appelait l'homme aux grandes oreilles. Qui était l'homme aux grandes oreilles? Personne n'en sait rien. Oh, ça désigne un personnage historique. Donc, de les traduire en français immédiatement, et directement, je crois, sur magnétophone. Il faudrait centraliser cette documentation, et essayer de créer, par exemple à Dakar, en liaison avec l'Institut français d'Afrique noire, ces ébauches d'une archive sonore historique de l'Afrique
noire. Oui, je crois qu'on pourrait faire un excellent travail. Je passe à une autre question qui relie un peu à l'histoire de l'Afrique, puisque toutes ces populations en sont mêlées. Vous avez parlé tout à l'heure des Djerma, et je voudrais vous poser une question. En descendant le Niger de Niamey à Dunga il y a quelques mois, nous avions croisé d'immenses pirogues contenant des familles entières avec le bétail. On m'avait dit ce sont des Djerma qui viennent de la Nigeria. Je crois que vous êtes particulièrement intéressé à ces populations. Peut-être pourriez-vous nous apporter plus de précisions sur leur vie.
Eh bien, ce que vous avez vu, ce sont ce que l'on appelle des Sorkawa, Mohausa.
Les Sorkawa, oui.
Sorkawa. Mm-hmm. Les Sorkawa et le Mohausa qui désignent le pêcheur Djerma Sonrai, le Sorko. Ce sont des pêcheurs issus du groupe Sonrai et qui se sont fixés à l'embouchure du Birninkebi et du Niger, donc dans le nord de la Nigeria. Mais comme traditionnellement ils appartiennent au rameau Sonrai, ils ont un droit de pêche sur tout le bief de l'ancien empire de Gao, c'est-à-dire des rapides de Boussa, jusqu'au lac des Baux. Et tous les ans, ces gens dans ces immenses pirogues remontent
le Niger,
ils vont jusqu'à Gao, dans les endroits où ils sont connus, ils s'arrêtent même dans les endroits connus, ils remontent même jusqu'à Mopti, où ils se heurtent aux Bozo et Somono qui font la grande pêche. Ils restent pendant la période de la pêche, 3 ou 4 mois, fument leur poisson, le chargent dans ces grandes pirogues et vont vendre tout ce poisson dans le delta du Niger, dans la région de Nitcha. Et ces grandes pirogues que vous avez vues sont des pirogues qui ont été abattues dans le delta du Niger, tout près de Fort Kados et de Burutu. Je suis passé à cet endroit, en Nigeria, en basse Nigeria, et que ces pêcheurs échangent contre le poisson fumé qu'ils ont été tués dans le nord.
Ah bon?
Car, comme vous le savez, dans la région du delta du Niger, il y a une densité de population absolument considérable. Le fleuve est peu poissonneux dans cette région, et au bord de ce fleuve, le poisson coûte terriblement cher. Et ces pêcheurs Sorkawa ont trouvé un équilibre économique qui est très bien. Ce sont des pêcheurs migrants qui vont ramasser le poisson dans leur bief qui historiquement leur appartient, et voyez, on retombe sur cette histoire vivante dont je vous parlais tout à l'heure, et qui vont le vendre à ces populations affamées du sud du delta. Ce sont eux en particulier qui approvisionnent actuellement tout le nord de la boucle du Niger de ces grandes pirogues monoxyles qui remplacent peu à peu ces pirogues extrêmement pittoresques que l'on trouve encore dans la région de Gao, qui étaient faites de troncs de palmiers doum cousus avec des cordelettes, et les planches entre elles étaient simplement calfatées avec du crottin de cheval et des chiffons. Mm-hmm. Eh bien, ces pirogues disparaissent pour faire place à ces pirogues qu'on appelle les Habara, qui sont ces fines pirogues du delta, qui maintenant remontent jusqu'à Mopti.
Alors, vous, monsieur Rouche, vous partez, vous allez partir en Ghana, mais comme la période des vacances a commencé en France, peut-être y a-t-il d'autres ethnologues qui vont se rendre en Afrique, justement, dans le même but que vous.
Bien, de toute façon, je travaille en liaison avec 3 sociologues et ethnologues. Mon camarade Bernus, du service géographique de l'IFAN d'Abidjan. Rollin, qui est un sociologue de l'Office de la Recherche Technique d'Outre-mer, de l'ORSTOM. Et Mademoiselle Dupire, qui jusqu'ici avait travaillé sur les Peuls Bororo de l'Est du Niger, et qui doit faire un travail sur les ouvriers migrants des plantations de cocoteraies de la Lagune en Basse-Côte d'Ivoire. Au Ghana, je retrouverai des sociologues de l'université de Légon, de l'université de Ghana, et nous avons la chance d'avoir également la collaboration d'un économiste américain de Harvard, M. Berg, qui grâce à une subvention de la Fondation Ford, doit venir étudier le problème économique d'ensemble de cette main-d'œuvre migrante, si vous voulez en un mot, le marché de la main-d'œuvre de cette partie de l'Afrique occidentale.
C'était Entretien avec Jean Rouche sur un projet d'archives sonores de l'Afrique, une émission de la SORAFOM, Société de Radiodiffusion de la France d'Outre-mer, première diffusion sur Radio Dakar, janvier 1959.